y a chez les hommes quelque chose qui profondément les pousse à aller plus loin, plus haut, plus vite. Et c'est incontestablement le moteur du progrès. C'est très important.
Et ce n'est pas à un psychiatre de dire si on est un homme ou une femme ou entre les deux.
Langue de fronde.
Langue de fronde.
Langue de fronde. Une émission féministe, meuf, gouine, trans.
Langue de fronde.
Langue. Langue de fronde.
Soy mujer, soy MC, soy quien soy, aquí estoy. Alístense grafiteros, MC, DJ, B-Boy, que hoy verán como hip hop el que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y lírica cruda. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la mujer solo
se... Bonsoir, bonsoir. Vous êtes bien sur FPP 106.3 FM, sur l'émission Langue de fronde, une émission meuf, gouine, trans. Aujourd'hui, nous avons en studio Gab, qu'on a déjà vu la semaine dernière.
Coucou.
Et en technique, il y a Po. Et voilà, il y a moi. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Panthère Première. C'est une nouvelle revue qui est créée toute en non-mixité. Alors, on va pouvoir entendre les conditions de création de cette revue. Vous entendrez aussi un peu le contexte économique, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi le prix qu'ils ont choisi. Quels sont aussi les articles préférés des personnes que nous avons rencontrées. Et voilà, un petit peu aussi, on va parler un petit peu esthétique, quelle est la ligne éditoriale. Enfin voilà, on va un peu s'enfoncer un peu dans cette revue, et puis comme ça vous avez une petite idée de quoi il en retourne. Voilà, bonne écoute.
Bonsoir, on est en direct ici du 27e salon de la revue au Hall des Blancs Manteaux, et on rencontre deux personnes, Claire et Aude, des Panthères Premières. On est heureuse de vous rencontrer. Donc pour commencer, donc comment est-ce que vous êtes venue à créer cette nouvelle revue, Panthères Premières ?
Eh bien, on y a pas mal de filles de la revue qui sont issues d'autres revues de critique sociale, comme Jeff Clack, L'An 02 ou la revue Z. Et du coup, c'était ça partait d'une envie de faire une revue non mixte, quoi.
Ouais, de tester d'autres manières de... Enfin, d'autres dynamiques de groupe, d'autres manières d'être ensemble, et puis d'autres interactions.
Vous connaissiez déjà comment vous êtes rencontrés, comment vous êtes constitués en groupe? Est-ce que ça s'est fait quasiment... Enfin, en une seule fois, en plusieurs fois, un petit groupe qui après s'est élargi? Enfin, comment... Ouais, c'est quoi la structure de Panthères Premières?
Ben, en fait, c'est trois filles qui faisaient partie de Jeff Clack. Et du coup, en fait, entre revues, les gens se connaissent, quoi. Donc du coup, qui connaissaient aussi bien les copines qui étaient dans la revue Z, qui connaissaient aussi bien les copines qui étaient dans la revue L'An 02. Et que du coup, voilà, il y a déjà des liens affinitaires et militants qui existent depuis quelques années. Et voilà, en gros, enfin...
Et après, c'était qu'une moitié d'entre nous qui faisait partie du milieu des revues. Les autres s'étaient croisés pas mal à l'université aussi. Et d'emblée, on a été... Enfin, d'emblée, le jour du lancement officiel, on était entre 10 et 15. Et on est à peu près resté ce nombre et puis les mêmes personnes à peu près pendant toute l'aventure. Il y a certaines qui ont décroché, d'autres qui se sont plus impliquées vers la fin. Ça a un peu dépendu de nos disponibilités. Mais sinon, oui, on est resté ce groupe-là, un groupe de cette taille-là.
Et qu'est-ce qui vous a donné... Enfin, ça a été quoi un peu l'idée initiale de se dire « Tiens, on va faire une revue en non-mixité » Vous aviez toutes déjà des bases féministes ou c'est quelque chose qui a émergé progressivement en réflexion commune avec différents échanges?
Je pense qu'on avait, toutes un peu des bases féministes. Après, chacune a sa manière de voir le féminisme. Donc voilà, on n'est pas un féminisme dogmatique, quoi.
Oui, on n'en a d'ailleurs pas beaucoup discuté. Ça fait partie des prochains chantiers aussi, de se dire qu'on a envie de discuter plus ces questions, parce qu'elles sont évidemment apparues au cours des discussions, enfin au cours des discussions sur les textes, mais toujours un peu, on va dire un arrière-plan qu'on avait chacune, mais sur lequel on n'a pas été très 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 clair non plus. Et on s'est dit qu'on avait envie d'être de se connaître mieux, et puis pour celles qui connaissent moins bien aussi les questions féministes aussi de les découvrir plus, et puis d'en parler franchement en fait pour voir s'il y avait des désaccords, des accords, des choses à apprendre les unes des autres, et en faire un sujet. Alors que pour l'instant c'est plutôt un arrière-plan, une évidence,
une base. Il y a quand même une base commune, je pense, assez forte. Mais après, chacune avec ses expériences. Ce qui fait partie du commun, c'est qu'en fait, il y en avait beaucoup qui... disons que dans l'existence d'une revue, il y a tout un travail invisible qui est souvent lié à l'administratif, aux tâches administratives. Et on s'est quand même rendu compte que dans plein de revues, c'est quand même souvent les nanas qui s'y collent à ce truc-là. Et que les tâches un peu plus valorisées, comme l'écriture, sont souvent des places qui sont prises par les hommes, quoi. Et même dans les milieux militants, très alertes sur les questions de sexisme et de discrimination et tout ça. Du coup, voilà, l'idée, c'était quand même de dire, bon, bah là, au moins, on fait tout. Alors, évidemment, on n'échappe pas aux tâches chiantes, mais au moins... On a vraiment de la place si on a envie de se mettre à l'écriture, ou en tout cas on peut tout faire de A à Z. Enfin, on doit tout faire.
Ouais, y compris des tâches techniques pour le coup, celles qui sont pas ingrates, mais celles qui sont assez bien considérées, comme webmaster ou graphiste. Celles-là aussi, elles sont prises en charge par des meufs, et elles sont, c'est les seules qui sont rémunérées d'habitude dans la presse indépendante, et c'est le cas aussi chez nous. Et je pense qu'on avait toutes des vécus assez différents par rapport au sexisme dans les revues. Il y a des revues où ça se passe relativement bien, mais il y a quand même cette vieille répartition des tâches qui se fait parce qu'on a tendance à se dévaloriser un petit peu. Et puis il y a eu des clashs aussi. Moi, perso, je m'étais fait traiter d'androphobe. Donc voilà, c'est allé aussi assez loin. Et d'ailleurs, j'avais signé quelques articles andréophobe. Parce que ça me faisait marrer. Pour pas oublier ça, en fait, et pour le redire dans la revue, rappelez-vous, ce truc est passé comme une lettre à la poste et vous avez jamais rien dit. Et je trouve que ça serait bien d'en parler aussi à l'occasion dans la revue. Et j'espère qu'on aura l'occasion de travailler sur ça. Et sans régler des comptes, en fait, mais juste parce que c'est ce qui se passe dans toute la société, en fait, de tous les environnements de travail, c'est les mêmes logiques. Et on est toutes soumises à ça. Et c'est ce qui fait qu'on ne trouve pas notre place aussi confortablement que les autres personnes qui travaillent, qui s'appellent des hommes. Et je trouve que c'est intéressant aussi de faire quelque chose de cette expérience qu'on a, et puis de pouvoir la croiser aussi avec tous les milieux divers dont on vient.
Après, de travailler en non-mixité, ça change souvent beaucoup de choses. Enfin, nous, on en fait aussi l'expérience au sein de Langue de Fronde, mais ça n'abolit pas tous les rapports de pouvoir non plus. Donc, est-ce que vous avez aussi discuté, est-ce que vous avez vécu aussi des choses difficiles pendant ces moments, ces deux années de préparation, si j'ai bien compris, pour Panthère Première? Est-ce que vous avez, ça a été aussi un moment pour résoudre et avancer un petit peu dans les problèmes de gestion, de travail, de repenser peut-être les rapports d'autorité ou de...
Ouais, c'est un vaste chantier. Effectivement, ça n'annule pas tous les rapports de domination, évidemment. Ce qui se passe, c'est qu'on essaye de beaucoup parler, d'essayer de beaucoup dire les choses. Après, c'est pas... on n'est pas encore, je pense, à une gestion idyllique des rapports humains, mais on essaye de prendre en compte les émotions de chacune, et pas trop non plus. Enfin, voilà, essayer de faire un truc à peu près, de travailler quand même, quoi. Enfin.
Ouais, moi je trouve que on travaille pas sur des trucs, des modèles un peu bien rodés et sur des questions, des fonctionnements un peu formels, et qu'on s'appuie beaucoup sur le fait qu'on est des meufs vachement sympas et que c'est ça qui fait, et puis que de bonne volonté, c'est ça qui fait que ça se passe bien, mais c'est vrai qu'on pourrait se mettre plus au travail sur ces questions. Ouais.
Parce que concrètement, en fait, comment vous avez réalisé cette nouvelle revue ? En fait, vous êtes de façon collégiale toutes les 15, vous êtes rencontrées, regroupées, vous avez fonctionné beaucoup par mail, ou qu'est-ce qui a décidé de comment serait la première page, quels articles vous avez choisis, quels articles vous avez laissés, comment en fait les prises de décision se sont faites au sein de votre groupe ?
Beaucoup de réunions. Beaucoup de temps de réunion, comme pour n'importe quel fonctionnement de revue, quoi. Beaucoup de mails, pareil, beaucoup trop de mails. Ça, c'est un peu la plaie de nos temps, quoi. Enfin, de notre temps. Ce qui était pas mal, c'est qu'il y a effectivement une bonne moitié qui connaissait donc bien le fonctionnement d'une revue, et une autre moitié qui, effectivement, pas du tout. Et donc, du coup, on a essayé de voir quelles envies on avait, quoi, en fait. De créer un nouvel objet, beaucoup de discussions, quoi, en fait, sur chaque chose.
Ouais, puis on s'est fait de longues séances de travail. On a fait deux semaines de bouclage, une semaine de bouclage qui est devenue résidence d'écriture, et puis une autre semaine de bouclage. Et je pense que c'était bien d'être comme ça, en présentiel, et puis de travailler vraiment sur la matière des textes, et de pas se... Le fait d'être là les unes les autres, ça permettait aussi d'avoir cette relation, d'être assez proche en fait quand on voulait travailler ensemble pour s'aider ou pour échanger des arguments donc il y avait ce truc qui était chouette de pas mal tabler sur le présentiel, avec la difficulté que la plupart d'entre nous sont basés à Paris ou à Marseille. Et que chaque fois c'est assez coûteux en temps, en énergie et en argent, tout simplement pour se rencontrer. Mais je pense que ça vaut le coup.
She left to see.
Vous êtes bien sur FPP 106.3 FM dans l'émission Langue de Fronde et nous venons d'écouter Alice Phoebe Lou avec le titre She. Et voilà, nous revenons avec la revue Panthère Première et on passe maintenant à un petit extrait d'un article qui est un des rares articles théoriques qu'il y a dans le livre, enfin un peu théorique, qui s'appelle Le dilemme de Cologne, écrit par Mélusine. Et qui pose la question de quel espace politique pour les femmes racisées. Moi, c'est un article qui m'a beaucoup intéressée. Il se pose, ça parle pas mal d'intersectionnalité, qui sont des points de vue et des idées qu'on aborde assez souvent au sein de Langue de Fronde et des questions en tout cas qu'on se pose assez régulièrement. Voilà, c'est pour moi un article qui m'a donné quelques armes, enfin qui me donne, il faudrait que je le relise, re-relise, qui me donne quelques armes pour répondre aussi à certains discours racistes qui se posent à nous, surtout des discours qui sont évidemment sous couvert de féminisme. Alors ça s'appelle le dilemme de Cologne, donc ça parlait de l'affaire de Cologne, mais aussi ça parlait aussi de l'affaire de Sevran, qui est, je cite, l'affaire falsifiée de ce bar PMU, supposément interdit aux femmes. Donc cette affaire a frontalement interrogé la possibilité d'articuler, sans indulgence, un discours antiraciste et féministe cohérent. Parce qu'il est inacceptable que l'enjeu féministe, qu'est l'accès de l'espace public aux femmes, puisse être ainsi manipulé au service d'un agenda raciste, il ne fait en effet aucun doute que la démarche de ce reportage, sa conception, son objectif, son traitement journalistique et les réactions politiques qu'il a provoquées s'inscrivent dans un contexte raciste et islamophobe, en ce qu'il perpétue l'idée d'un patriarcat spécifique des hommes arabes ou noirs qui étendrait son pouvoir aux marges de la République. Patriarcat qui serait intimement lié, non pas à des pratiques religieuses, mais à une culture musulmane, un esprit musulman, qui gangrènerait peu à peu ces territoires perdus. Mais parce qu'il demeure cependant absolument révoltant d'envisager que des espaces continuent d'être interdits aux femmes, et nous savons toutes combien ils sont nombreux, même lorsqu'ils ne sont pas explicitement, réglementairement, strictement interdits, ils n'ont pas besoin de l'être. nous savons toutes la gêne, l'hésitation, l'illégitimité à entrer dans un espace masculin. Masculin par sa population, masculin par les activités qui s'y tiennent, masculin par sa raison d'être même. PMU, métro nocturne, salle de réunion. Les regards qui font baisser les yeux, qui font se sentir soudainement impudique par le simple fait de se tenir là. Certains ont tenté, à l'occasion de cette affaire, de dénoncer la manipulation raciste sans rien céder du terrain féministe. La plupart de ces tentatives m'ont laissé un goût amer. Face aux photographies jaunies de cafés ouvriers qu'ils ont exhumées, j'ai grincé des dents, comme je l'avais fait devant les images de femmes en habits de bain années folles qui ont fleuri l'été du Burkini. Pratique d'un autre siècle, ça n'a jamais consolé personne et ça ne fait qu'entretenir l'idée évolutionniste qu'il ne manque à ces gens que du temps pour accéder à la civilisation et qu'il ne reste finalement à leurs femmes qu'à faire œuvre de patience. Voilà, c'était pour l'extrait de Mélusine, enfin qu'a écrit Mélusine dans l'article de la revue Panthère Première. Donc c'est un article, comme je disais, un petit peu théorique et là. Une des personnes interviewées nous a dit qu'elle avait fait lire à sa mère et que pour elle, c'était un petit peu dur, qu'elle ne comprenait pas tout à fait le fond. Mais bon, donc je pense que... Mais en tout cas, pour nous, c'est... Enfin, pour moi, en tout cas, ça me parle. Voilà, on va pouvoir continuer l'interview.
Je voulais maintenant passer peut-être à la partie un peu économie, puisque dans votre édito, vous parlez de... Vous dites en réfléchissant à une économie de la revue qui nous offrirait les moyens matériels nécessaires à une production de qualité et qui ne reposerait pas entièrement sur le bénévolat. Donc votre revue, vous avez décidé du prix de 8 euros pour une revue qui fait à peu près 100 pages. Comment vous avez défini votre prix? Quel budget, enfin, quel fonds vous avez, enfin, vous avez eu besoin et est-ce que vous avez réussi en tout cas à vous rémunérer?
Alors en fait, on a fait un crowdfunding qui a plutôt bien marché, voilà. Et en fait, on a décidé que ça allait coûter 8 euros parce qu'en fait, c'est quand même un format magazine avec un papier un peu comme un papier journal, quoi. Donc du coup, au niveau du coût d'impression, on pouvait se permettre de le vendre 8 euros. On voulait en fait que ce soit quand même assez accessible niveau prix, quoi, pour les gens. Et je ne sais plus quelle est la deuxième partie de la question.
Déjà, comment vous avez aussi décidé de... Comment vous avez fixé votre prix de 8 euros? Est-ce que vous avez réussi à vous rémunérer? Enfin, après, c'est encore en cours, mais de ces 8 euros, en fait, est-ce que vous avez décidé de combien aller dans quelle poche?
Oui, alors pour l'instant... Effectivement, donc là c'est vraiment le numéro 1, donc tout est encore un peu en cours, quoi. Mais pour l'instant les rétributions graphiques et écrites sont plutôt de l'ordre symbolique. Disons qu'à terme, effectivement, l'idéal c'est de tendre vers une activité qui nous permettrait juste de vivre, en fait.
On en ferait tous les mois, on sortirait tous les 15 jours et puis on travaillerait tellement dedans qu'en effet on pourrait en vivre. Mais pour l'instant le symbolique il est dans les deux sens en fait. C'est symbolique dans le sens de c'est pas grand chose, mais symbolique aussi dans le sens de c'est quelque chose. Et notamment sur la différence entre les activités techniques prestigieuses et puis celles qui valent rien du tout et puis celles qui valent et puis les tâches d'écriture qui sont aussi en général très prestigieuses mais pas rémunérées. Là aussi, on essaie de, on n'est pas encore au bout du chemin, mais on essaie de tout mettre en, enfin de tout réfléchir, quoi. Et donc on est encore en train de, réfléchir à tout ça.
Oui, je pense qu'on va attendre de voir en fait combien. Là, on ne sait pas du tout encore combien on va récupérer d'argent sur les ventes, quoi. Donc à partir de là, on pourra vraiment établir un plan de trésorerie et voir ce qui nous manque, enfin qu'est-ce qui est possible en fait de faire avec ou d'aller chercher encore de l'argent ailleurs. Après, le problème, c'est que les subventions sont quand même plus du tout dans l'air du temps. Donc voilà, du coup, va falloir chercher. Enfin, va falloir, je sais pas.
Mais c'est un grand principe féministe en fait de repenser la valeur du travail et ça fait partie de nos ambitions.
Est-ce que vous avez, de façon assez pragmatique, est-ce que vous avez dit, quand vous avez fixé le prix de 8 euros, est-ce que vous avez dit, ah ben, ça veut dire qu'il faut qu'on en on vende X pour à peu près pouvoir se rémunérer à un juste prix, ou est-ce que vous avez pensé à ça, ou vous vous êtes dit bon, déjà on essaye de on lance, on voit et après on réfléchit peut-être plus tard, enfin, je sais pas.
Moi, je dirais qu'on a plus pensé à qu'est-ce que ça ferait avec un tel objet dans une librairie, quelqu'un qui se retrouve devant ça et combien il est disposé à mettre. Et sachant qu'on avait envie de que ça soit pas très très cher, et que ça soit un peu comme l'objet lui-même, en fait, il est ce truc-là qui est souvent sorti, il n'a pas de dos carré, il est juste agrafé, il est relativement
souple.
Ouais, relativement souple, et l'idée c'était de le rouler dans le sac à main, quoi. Et donc avec ce truc de départ d'un objet qui est plutôt modeste, il faut que le prix non plus soit pas très élevé. Et du coup, ça correspond aussi à un truc d'accessibilité par rapport non seulement économique, mais aussi par rapport à l'objet revu. Il y avait vraiment cette volonté de pas faire un truc qui fait attention ici revu un télo, ne l'ouvrez que si vous êtes familier de ce genre d'objet. Donc le prix, on l'a fait comme ça, et puis ensuite il reste plus qu'à croiser les doigts pour que ça rejoigne une logique économique et on verra, parce que pour l'instant on ne sait pas trop comment il va se vendre, comment est-ce qu'il va fidéliser aussi ses lecteurs et ses lectrices. Donc ça sera aussi un peu la surprise. C'est pour ça qu'il y a plein de revues qui disparaissent, et puis il y en a d'autres qui réapparaissent, et puis il y en a qui tiennent, et ça tient aussi, je pense, à la réception qu'elles ont de leurs lecteurs et lectrices. Donc voilà, si vous aimez la revue, il n'y a pas de secret, il faut l'acheter.
Est-ce que, enfin, quand vous avez décidé des articles, du contenu des articles, justement, est-ce que vous vous êtes dit, on a envie de viser tel ou tel public, enfin, qu'est-ce que vous avez, quelles attentes vous aviez, quelles idées, vous avez donc une volonté d'une certaine accessibilité, mais donc comment ça s'est traduit dans les articles que vous avez choisis, et quel public vous pensez toucher?
Je crois que ça s'est pas choisi sur ce... On s'est rien interdit, en fait. On s'est permis de parler de tout ce dont on avait envie de parler. En revanche, un truc qui est revenu souvent, c'est qu'on voulait en parler en des termes qui étaient compréhensibles par chacun, de pas cultiver l'ésotérisme, de pas cultiver les références pour Happy Few, et d'être tout simplement, enfin, de décrypter s'il y avait des références, de les décrypter. Moi, par exemple, j'avais fait un petit travail de mettre des notes de bas de page aussi sur certaines choses qui n'étaient pas très bien connues. Après, je suis pas sûre. Enfin, je pense que c'est évidemment pas facile de s'adresser à tout le monde. Mais il y avait cette volonté, en tout cas, de pas cultiver l'obscurité pour l'obscurité, quoi.
Oui, d'accord. Ben merci. Ouais. Pour moi, c'était. Enfin, si j'ai une petite. Enfin, moi, j'ai bien aimé les textes. Après, ce que je pouvais reprocher, c'est. Je suis pas sûre. Enfin, ça manquait peut-être un peu d'analyse. C'était un peu des textes bruts, et j'ai l'impression qu'il fallait quand même un certain capital culturel pour vraiment comprendre, en fait, de quoi parlaient vraiment ces textes. Alors, il y a le petit chapeau qui explique quand même un petit peu, qui introduit, mais derrière le texte, c'est un peu à nous, lecteurs et lectrices, d'analyser qu'est-ce qu'on en retire de ces textes. Du coup, je me disais que ça nous laissait peut-être... Enfin, moi, ça me laissait peut-être un petit peu... Ben, je ne sais pas quoi en penser. J'ai l'impression que c'était à moi de faire le travail d'en penser quelque chose, et que peut-être que la personne qui me montrait son texte, j'aurais bien aimé aussi à savoir ce qu'elle en pensait.
Et ça, c'est toujours des paris, quoi. C'est juste qu'effectivement, ça laisse la liberté au lecteur d'interpréter le texte. Effectivement, on donne pas toutes les clés en main. Enfin, en tout cas, ça dépend desquelles. Après, c'est vrai que il y a vraiment une volonté d'accessibilité, après, qui est toujours un peu, comment dire, contradictoire avec la plupart du background des nanas du collectif qui ont toutes fait pas mal d'études supérieures et qui donc effectivement s'adresse à, enfin, en tout cas
à un grand public très très cultivé, enfin très cultivé, on va dire.
C'est
en fait, on a tout envie de faire ça, d'à la fois faire quelque chose pour tout le monde et à la fois creuser. Mais je pense que quand même il y a plus de portes d'entrée dans Panthère Première qu'il y a dans d'autres revues politiques comme ça. Il me semble qu'il y a des choses enfin, on essaie tous, je pense aux autres revues, on essaie tous quand même de faire des objets qui sont attirants, qui sont un peu amusants aussi, qui cultivent d'autres manières que le truc purement intello, quoi.
Oui, il y a un horoscope quand même.
Strictement personnel, ma vie doit changer à partir de lundi. C'est écrit dans le ciel, mais c'est mon journal qui me l'a prédit. Et grâce à Jupiter, je vais rencontrer enfin le grand amour. Mais depuis avant-hier, la date est passée et j'attends toujours. Tout est faux, archi faux, dans l'euro. Socialement parlant, je dois hériter d'un cousin milliardaire. Mais ce proche parent semble décidé à rester sur terre. Il aime pour ma santé, je dois me méfier, disent les oracles. J'ai beau me surveiller, mais je me porte bien, ce doit être un miracle. Tout est faux, archi faux, dans l'euro. Que l'on soit du taureau, du lion, du bélier ou bien du sagittaire. Que l'on soit né gémeaux, balance ou verseau, poisson ou cancer. À quoi bon le cacher? Personne n'y croit, pourtant chacun le lit. Il suffit d'en parler pour s'apercevoir où mène la folie. Tout est faux, archi faux, dans l'euro. Doit changer à partir de lundi. C'est écrit dans le ciel, mais c'est mon journal qui me l'a prédit. Strictement personnel, ma vie doit changer à partir de lundi. C'est écrit dans le ciel, mais c'est mon journal qui me l'a prédit.
Est-ce qu'il y a des textes dont vous avez. Est-ce qu'il y en a. Quel est votre texte préféré et, s'il y en a un, et quelque chose qui vous avez envie de.
Moi, mon texte préféré, c'est celui de Claire. Et je crois que c'est le texte préféré de pas mal de meufs dans la revue aussi. Et on l'a beaucoup travaillé. On a beaucoup donné plein d'avis à Claire, y compris au risque de la submerger. Et le résultat, à mon avis, il est vraiment très très chouette.
Et donc, quelques mots sur ce texte ?
Oui, alors c'est sur les... Comment dire sur les rapports de couple et la domination affective à l'intérieur des rapports de couple à partir de plusieurs lectures, notamment les bandes dessinées de Liv Strömquist, donc la Suédoise qui a écrit Les sentiments du prince Charles et L'origine du monde, et une autre qui vient de sortir là. Enfin, c'est des super BD féministes. Et donc voilà, c'était...
Et puis pourquoi l'amour fait mal ?
Oui. Un livre de sociaux d'une chercheuse israélienne qui s'appelle donc Pourquoi l'amour fait mal. Le titre est assez explicite. Et voilà, c'était en fait un texte sur... Enfin, tous les casse-têtes qu'on a tout au long de la vie sur les histoires amoureuses qu'on a ou pas.
Moi, je suis super fan en fait des sentiments du prince Charles et je trouvais que Claire elle en parlait pas mal aussi, avec ce mélange aussi que tu reproduis d'essayer à la fois de pas parler quand même dans le vide et puis d'essayer de détailler un peu son propos sur des travaux un peu rigoureux qui ont été faits sur ça, mais aussi de parler de soi, des copines, de toutes les choses vues, entendues, et des choses sur lesquelles il y aura sûrement plein de mecs pour dire que non, c'est pas vrai, mais en revanche nous, entre copines et entre meufs féministes, on a bien repéré certains fonctionnements. Et donc, cette part un peu de profane et de savant, je trouve que c'est une démarche qui est assez... Enfin, je pense que tu te l'appropries pas mal et puis tu utilises aussi les deux, ces deux pattes là pour bien parler des questions de pouvoir en fait dans les relations de couple, dans les couples hétéros. Et voilà, comme le féminisme aussi marche sur ces deux pattes, la patte savante avec le féminisme académique et puis un truc qui vient
la
pratique, ouais.
Le petit fossé entre la théorie et la pratique, quoi, qui est quand même toujours dur à concilier. Enfin, on est quand même toujours pris dans des injonctions super contradictoires, donc c'est un peu là-dessus, enfin, entre autres.
Extrait de L'amour sur le ring de Claire Féasson. Les masculinités contemporaines, sans être monolithiques, se construiraient donc encore aujourd'hui en opposition à des caractères considérés comme féminins. C'est ici que la sentimentalité prend une valeur péjorative. Une étude récente sur la socialisation des petits garçons à l'amour menée par le sociologue Kevin Dieter confirme que la plupart d'entre eux intériorisent très vite la nécessité de rester à distance de l'amour afin d'asseoir leur identité masculine. « L'amour, c'est nul, c'est un truc de fille », entend-on dans les couloirs de l'école primaire. Ce rappel à l'ordre de la répartition genrée des attitudes face aux sentiments amoureux est également entretenu par les professionnels de l'enfance qui, comme le montre l'auteur, sollicite différemment les filles et les garçons. Quand les premières sont encouragées à exprimer leurs sentiments à coups de « Alors Sophie, c'est qui ton amoureux ?», les seconds sont rarement invités à exprimer ce qu'ils ressentent quand ils ne sont pas moqués lorsqu'ils s'aventurent à le faire. « Ah bon, t'as une amoureuse, toi ?» Une fois adultes, il n'est pas rare que les hommes se servent, consciemment ou non, de ces enseignements genrés pour cultiver un « art du détachement » et asseoir ainsi une forme de domination affective sur leur partenaire.
Et toi, ton article préféré ?
Moi, c'est celui de Julia. C'est sur les personnes âgées qui ont des troubles mentaux ou la maladie d'Alzheimer, ou en tout cas qui sont décrétées un peu délirantes et auxquelles, du coup, on n'accorde aucune... aucun intérêt quand elle révèle des formes de, comment dire, de violence qu'elles ont vécues dans leur vie, quoi.
Ouais, c'est-à-dire qu'elle concilie le fait d'être des femmes, donc a priori pas très crédible, avec en plus le fait d'être possiblement démente ou délirante. Et la question que se pose l'article, c'est de savoir si, quand on a ce genre de maladie, est-ce que les souvenirs qui ressurgissent sont des souvenirs délirants ou est-ce qu'ils ressurgissent parce qu'on est malade, mais ils sont tout à fait... c'est des choses qui ont été enfouies et qui ont... et avec lequel le psychisme a fait avec pendant des années et des décennies. Et le truc revient tout d'un coup. Et donc ça pose pas mal de questions autour de cette crédibilité. Et puis ça pose vachement de questions aussi autour de l'intérêt qu'on accorde aux questions de violence. Et puis est-ce qu'on a envie d'y faire quelque chose ? Et là, le fait qu'elle soit vieille, que les choses soient passées depuis longtemps, que possiblement on peut très bien se retrancher derrière le « oui, mais en fait, elle débloque un peu la mamie », ça permet de vraiment faire ce qu'on a envie de faire tout le temps quand une femme parle de violence, c'est-à-dire de nier, de dire que c'est pas vrai, puis de toute façon c'est pas grave, et de toute façon c'est pas ci, et pas c'est pas ça. Et tous ces trucs qu'on connaît bien, ils sont décuplés juste dans ces questions de violence qui surgissent chez les personnes âgées.
Taking, you can have it. have a wing, you won't say I want you. I can chop, I can stop, say I never wanted that. It's just inevitable instance. Twisted bitterness, I give her too much. She'll be
overthought.
Well, I will ring, you won't say I want you. Chop, I can stop, say I never wanted that. It's just inevitable instance. Twisted bitterness, I give her too much. She'll be too for the taking. You can have it all. If you look insane, it's gonna drive you back down the roads and the streets and the pavement. Stomping your ground and the roof starts shaped up.
Vous êtes bien sur FPP 106.3 FM dans l'émission Langue de Fronde. Alors, on a écouté après l'horoscope, après la mention de l'horoscope, Juliette Gréco justement avec le titre L'horoscope. Et là, nous venons d'entendre Lapsley avec le titre Station. Et voilà, pour faire suite à l'article préféré de Claire, nous allons donc, Gab va vous lire un extrait de l'article Vouloir durer, c'est apprendre à mourir.
Une fois qu'un comportement a été jugé non crédible, selon des critères pas forcément ou pas entièrement crédibles, et que la personne en question est âgée, donc supposée ou rendue passive, qu'advient-il si elle a quelque chose à dire d'un tant soit peu déroutant, au sujet de violences commises au sein de la famille, par exemple ? Réponse 1. À Paris, je rencontre la psychiatre qui dirige le pôle gériatrie des hôpitaux universitaires de la ville, divisé en plusieurs services, est répartie sur 3 établissements. Elle affirme que le secret de famille ne sorte que si l'on est en bonne santé, car les troubles cognitifs empêchent de dire. Ils biaisent la mémoire, le langage, le jugement. Elle dit que la désinhibition qui peut caractériser le comportement d'un une démente ne peut entraîner des révélations sensées. Elle dit que personne n'a jamais prouvé que les délires ont un lien avec la réalité. Elle dit que les gens sont alors complètement à côté de leur histoire et pour preuve, il y a même des jeunes psychotiques qui se prennent pour Jésus-Christ. Les secrets s'enterrent avec la maladie, c'est comme ça. Elle dit, elle ne doute pas. Réponse 2. Gina, après avoir indiqué dans la voiture, « Tu sais, dans mon service, il y a beaucoup de femmes en fin de vie qui parlent d'inceste, sauf qu'elles sont délirantes, alors on ne sait pas », ajoute. Parfois, pour ne pas compliquer la vie des familles, on fait comme si de rien n'était. Moi, ce texte, ça m'a intéressé aussi parce que je travaille avec les personnes âgées et c'est vrai que c'est des choses qui restent pour nous, en tout cas pour les équipes, extrêmement floues, extrêmement ambiguës. Nous, on a eu la situation d'une dame dont on pense qu'elle a été agressée par un monsieur dans le même service. Et c'est une dame qui est démente et qui n'arrive pas à dire des choses très claires. Et du coup, elle disait des choses comme « Pourquoi on m'a fait ça ?» Et les soignantes ne savaient pas dire si c'était en lien avec quelque chose qui aurait pu arriver avec ce monsieur, sans qu'on ait de certitude, ou si c'était en lien avec des soins qu'elle recevait au niveau des parties génitales et qui étaient assez envahissants pour elle. Et donc, moi, je trouve qu'il y a toute une incertitude et toute une ambiguïté que la rencontre avec les personnes démentes nous laisse vraiment en grande difficulté par rapport à ça et par rapport à toutes ces questions de violence.
Merci beaucoup. Et voilà, on va passer à des questions assez pragmatiques et l'esthétique de la revue. Là, quand elle l'a eu entre les mains vendredi lors d'une réunion, elle a fait « Waouh, il est trop beau !» Alors voilà, la couverture, elle est rouge. Il y a marqué « Panthère première ». Et voilà, et elle est plus courte que le reste du livre, alors c'est un peu intriguant. Et on va écouter nos invités nous dire quelles ont été leurs idées concernant l'esthétique de cette revue.
L'esthétique de la revue, c'est disons que c'est une esthétique qui a l'air d'avoir plein de fans, gens qui aiment bien le côté un peu déstructuré, voire destroy. Surtout, il y a pas mal d'interventions graphiques qu'on a essayé de traiter, enfin d'interventions visuelles qu'on a essayé de traiter comme des contributions à part entière. Par exemple, il y a deux portfolios, un de Saba Niknam sur des dessins sur la guerre Iran-Irak, et puis un autre qui est assez étonnant, qui est sur des dessins de marins. C'est des marins qui font escale au Havre et qui ont l'occasion de dessiner alors soit leur bouille, soit leur bateau, soit des meufs, soit des lapins en train de niquer. Enfin, il y a un peu de tout. Et puis il y a au milieu une pépite qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Le déni est servi, et qui pour le coup entre vraiment bien en résonance avec le dossier. Et si tu veux la présenter.
On voit en fait un repas de famille avec une personne qui a la tête dans son assiette et de la fumée qui s'échappe, l'autre qui a une tête en mousse et plein de... une où c'est une espèce de pâte à crêpes, l'autre c'est un gros pot de fleurs. Enfin, en gros, ce que ça dit, c'est que c'est plein de gens qui sont autour d'une table et qui ont du mal à communiquer pendant qu'ils coupent le poulet et qu'il y a la charlotte aux fraises et que sûrement ces gens-là sont très proches, mais que... Ouais, que c'est compliqué, quoi.
Et c'est une photo, on n'a pas cité son nom encore, d'Amélie Laval, qui est une photographe qui fait des photos, alors des montages d'un côté, des collages, et puis de l'autre côté, ça c'est une photo qui a été faite sans effets spéciaux. Elle a tout bidouillé avec nous dans un bel intérieur bourgeois, et donc c'était un style qu'on aimait bien.
Moi, j'ai peut-être du coup une dernière question. Les autres revues dont que vous mentionniez tout à l'heure, il y a souvent l'étiquette critique sociale et littéraire. Ça, c'est quelque chose que vous revendiquez pas. Par contre, on sent vraiment ces influences. Enfin, c'était une volonté de votre part de pas vous étiqueter, en fait, de pas vous assigner une catégorie, ou pas du tout.
Je crois qu'on l'utilise pas mal dans la com. On dit qu'on a une revue de critique sociale.
Oui, oui, en fait, c'est quand même le berceau duquel on vient. Donc, c'est pas étiqueté, parce que c'est vrai qu'on en a un peu marre de l'entendre, en fait, et de se présenter comme ça. Mais c'est quand même pas très loin derrière, quoi. Et de la littérature, en fait, pour l'instant, on n'en a pas dans ce premier numéro, mais on a très envie qu'il y en ait dans la suite.
Et là, ce numéro, enfin, il nous semblait à plusieurs d'entre nous, une revue un peu une revue un peu patchwork, même s'il y a le sujet le privé et politique, ça il y a quand même des sujets qui sont extrêmement abordés, qui sont extrêmement différents les uns des autres. Et est-ce que vous avez une ligne éditoriale, est-ce que pour le prochain vous avez déjà des idées, ou tout ça est encore dans le futur?
Pour la ligne éditoriale, c'est comme la critique sociale, le féminisme aussi, on l'a pas mis en avant, mais c'est un peu le fond du truc. En fait, le truc sur lequel on s'est vraiment mis d'accord, on s'est un peu confronté, mais on s'est mis d'accord au final, c'est qu'on a envie de faire une revue d'enquête et de donner une grosse part au réel, et puis à la manière dont on va le chercher, sans plaquer des analyses préétablies dessus. Et donc voilà, on a sûrement plein de types d'enquêtes différents qui sont aussi valables les uns que les autres, mais en tout cas on a c'était le cœur de la démarche, c'était ça, ouais, c'était l'enquête.
Oui, c'est vrai en fait que ça se voit tout de suite. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enquêtes, de reportages, et qu'il y a de traductions qui sont, enfin, vraiment des médias très différents, et... Pour ça, je trouve ça très intéressant, cette multiplicité de façons de présenter différents sujets.
Et donc, on est d'accord qu'il y aura une Panthère seconde?
Oui, en mai-juin. Non, avril-mai.
Mais ça sera Panthère première seconde, enfin oui. Numéro 2.
Ok, merci.
Merci beaucoup de nous avoir reçus. We are ancient artifacts dug up somewhere we can't go back. Dull skin and broken back, polished and cracked. We're just primal creatures, fighting primal needs because the writing proceeds, the laws and the creeds. So tell me, can you get me down from this mountain that you put me on? Cause you bore me like an animal and you raised me like a saint. So tell me, can you get me down from this mountain that I'm falling off? Cause I'm feeling like a criminal and you're the one to blame. Maybe I'm no good, maybe I'm no good. We sail the sea like Christopher, take what we need and take some more. I am the new conquistador. I hide my urges in my words. Maybe I can't hide no more. It's starting to eat in my soul. I'm ready to die to go for more. So tell me, can you get me down from this mountain that you put me on? Cause you bore me like an animal. You raise me like a saint. So tell me, can you get me down from this mountain that I'm falling off? Cause I'm feeling like a criminal and you're the one to blame. Maybe I'm no good, maybe I'm no good. Maybe I'm no good, maybe I'm no good. Struggle with the life I live, and I don't know who I am when I'm acting like somebody else. But maybe I'm no good, maybe I'm no good. Maybe I'm no good, maybe I'm no good. So tell me, can you get me down from this mountain that you put me on? So tell me, can you get me down?
Toujours sur FPP 106.3 FM dans l'émission Langue de Fronde, vous venez d'écouter Trishes avec le titre Animals. Et pour finir notre émission sur Panthère Première, on va vous faire un petit horoscope partiel à la mode Panthère Première avec Gémeaux. Sur le goudron, une flaque fume, un incendie à plat, un indice de la fortune qui guidera nos pas. Augure, pétrole, bleu, vert, gris, regard cendré, regard cerné par d'hésitantes auréoles. D'hésitantes aux auréoles.
Cancer. Mots et mots sur un bateau. Les mots tombent à l'eau. Que reste-t-il? Lionne. Les confettis sont sales. À terre, il vous parle. Promené sous le talon de Nora. On ne choisit pas son public. Étouffé dans les poings d'une petite fille. On ne choisit pas son public.
Et parce qu'on est en novembre, je vous fais le scorpion. Juste avant que notre amour ne soit perdu, tu m'as dit « Je suis aussi constante qu'une étoile polaire ». Et j'ai dit « Constamment dans la pénombre, c'est où ça ? Si tu me veux, je serai au bar ». Voilà, voilà, nous clôturons cette émission. Et on se retrouve dans un mois, le 11 décembre, je pense, pour certainement une émission littéraire, mais c'est à confirmer. Je vous remercie. Et je fais un gros gros bisou à Pau qui a fait un super montage. Merci aussi à Gab d'être présente. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à Léa aussi d'avoir choisi pas mal de musique et Pau aussi d'avoir choisi la musique. Et voilà, on écoute pour finir un morceau assez long qui s'appelle Poetry, How Does It Feel de Akura Naru. Bonsoir.
Butterfly flew away from me. I wait patiently by windows and doorsteps. Play make-believe as my tears pour chest. Won't succeed to breathe if not the air of you. Surely there's never been a shade so blue. A stink attitude so not mad at you. Not a magnitude to encompass the latitude of my love for you. No space or time compatible. What do I have to do? What do I have to do? Ooh, my friends say I got it bad for you. I do, but there's nothing in this world I'd rather do. But you. I want to make love to your existence. Drenched in the colors of your energy, then masturbate to the memories. I want to lose myself inside yourself. Until you find me, confine me to the freedom of your prison. Exist in the same space, same time. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. My, I wanna drink the sweat of your intellect. Reflect and watch your light passion mark my neck. Caress the sight of your presence with no question. Undress to the nakedness of love, pure love. I want to make love to my soulmate. My soulmate make love to my soulmate. My soulmate make love to my soulmate. Shit. I wonder how does it feel to make love to your soulmate. Kinda like writing poetry till climax, till the point and place where our space and time match and we cross divine paths. Tell me what you like that. Now what you like that. Tell me what you like that. What you like that. Tell me what you like that. What you like that. I'm gonna ask you again now. Tell me. Than madly wrap these legs around your words until your speech is straddled deep. Gladly swim the currents of your vibration. Be separate and one with the same meditation. Same meditation. You know what? This right here is poetry. Thank you.
if love had a sound. You know, this would be that sound. And we